Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Rebonjour, ou si c'est bonjour tout court, eh bien bienvenue en 2021. Nous sommes là en direct pour la seconde heure de Culture Média. Nous sommes en hiver. Ouais. Et les autres saisons reviendront. Vous savez ce que c'est? Les quatre saisons de Vivaldi, quatre saisons d'elle aussi. Les sœurs Berthollet, Camille et Julie sont nos invités ce matin, violon et violoncelle. Leurs quatre saisons ressortent en album augmenté avec un bonus DVD. Damien Caprespin aura fort à faire, double portrait ce matin. Nicolas Carreau est déjà en 2021. Quels sont les romans les plus attendus de cette seconde rentrée littéraire? Vous saurez tout. Autre indispensable avec Louise Bernard, les espoirs comiques actuelle grâce à la chaîne YouTube du Festival de Montreux. Première page, vous découvrez en avant-première le début du nouveau roman de Yasmina Reza, Serge, à paraître chez Flammarion. Dernier épisode de la série des séries d'Eva Rock. C'est maintenant Culture Média jusqu'à 11h. Contente de vous voir. Tellement de séries qu'on s'y perdrait. Heureusement, vous avez suivi les recommandations d'Eva Rock ce matin. C'est bien simple, voici sa série préférée. Bonjour Eva.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Un indice pour votre série du jour qui est, on peut le dire, votre préférée de 2020.
C'est une plaie sur le front. La blessure n'est pas profonde, mais ce n'est pas une égratignure non plus. Arabella l'effleure de ses doigts sans savoir comment elle a pu se blesser de la sorte. La façade de son téléphone portable est brisée, ça non plus, elle ne s'en souvient pas. L'héroïne de cette série, I May Destroy You, a d'ailleurs un peu la tête dans le brouillard après une nuit agitée à devoir terminer un manuscrit pour un futur livre. Une séance de travail interrompue par un verre ou deux dans un bar avec un ami. Bon, il y a bien eu aussi un peu de drogue, un moment festif au cours duquel elle a eu la chance de chanter sur la scène d'une boîte de nuit londonienne. Mais au petit matin, il y a cette plaie, ce mal de tête et ces flashs, comme elle le raconte à sa meilleure amie.
J'avais un genre de truc dans ma tête avec un gars. Il est dans des toilettes, je crois, tu vois. Et il est, je sais pas, il fait un truc vraiment chelou. Il est plutôt essoufflé et grave en sueur. Il a de super grosses narines et c'est comme s'il bloquait la porte. Et du coup, elle fait, je sais pas, comme un boum régulier. Ouais, comme si, tu sais, comme s'il bloquait la porte, quoi.
Arabella distingue peu à peu le visage d'un homme, celui de l'homme qui l'a droguée avec du GHB avant de la violer dans les toilettes d'un bar.
Ça a l'air d'être une série très sombre.
Eh bien, absolument pas, parce que I May Destroy You, c'est avant tout l'histoire d'une reconstruction, un long processus mené par cette jeune femme lumineuse et qui éclaire de son visage chaque plan de la série. Elle a d'ailleurs un truc incroyable, Arabella. Elle cherche à tout relativiser pour éviter de se victimiser. Extrait d'une lettre qu'elle a écrite dans le cadre de sa psychothérapie.
Est-ce que je comprends seulement ce que ça fait que d'être une femme qui lutte? Une fellation forcée, c'est pas la mer à boire. Alors qu'aujourd'hui, des filles sont lapidées parce qu'elles ont un téléphone portable. Ou meurent d'hémorragie après avoir subi une excision. Ou encore se retrouvent avec un utérus endommagé à vie par des miliciens qui les violent systématiquement en période de conflit civil et de guerre. Cette réalité est-elle un rappel humiliant qu'il ne faut pas faire trop de vagues à propos de ce que j'ai vécu? Ou bien est-ce un signal m'incitant à le crier? Et mes cris peuvent-ils aider celles qui hurlent en silence? Est-il temps que je serve une nouvelle tribu? Un jour, j'espère le savoir. Je suis plus dans la réflexion, enfin j'essaie. Alors...
Qui est à l'origine de cette série, alors?
Michaela Cole, elle en est l'autrice, la co-réalisatrice et l'actrice principale. Et I May Destroy You est une partie de son histoire. C'est une série en 12 épisodes à voir sur OCS. Et c'est, à mon sens, la série de l'année, grâce notamment à la prestation de Michaela Cole, mais aussi parce qu'elle a su se servir de son expérience pour s'interroger sur le thème des violences faites aux femmes, sur la notion de consentement en particulier, sans jamais oublier que les hommes peuvent être victimes aussi d'un viol. C'est ce qui arrive au meilleur ami d'Arabella. Tous les deux sont noirs, c'est important de le dire Pascal, parce que la série parle aussi de gens racisés et dénonce les discriminations dont ils sont victimes. Regardez bien l'épisode final de la série, j'ai rarement vu une fin aussi puissante, aussi originale et aussi bien écrite.
Vous donnez envie, Eva Rock, où peut-on voir I May Destroy You ?
Alors les 12 épisodes de 23 minutes sont disponibles sur OCS, mais également sur Amazon Prime Video. I May Destroy You a cette immense qualité, avoir su s'emparer d'un sujet difficile, celui des violences faites aux femmes, sans être une série anxiogène pour autant. Et d'autres fictions ont évoqué cette année ce thème. Parmi elles, je vous recommande particulièrement Laetitia, de Jean-Xavier de Lestrade, à voir sur France.tv. C'est l'adaptation du roman enquête d'Yvan Jablonka, qui s'était penché pendant de longs mois sur l'histoire de Laetitia Perret, à 18 ans, violée et tuée à Pornic en 2011, et dont la vie courte fut marquée par les violences des hommes.
Eva Rock, merci beaucoup pour cette série des séries. On vous retrouve dès lundi, 10h sur Europe 1, si toutefois Philippe Vandel rentre de vacances.
Mais sinon, je resterai avec vous, Pascal.
Et alors, surtout une bonne année. Hein.
Merci, vous aussi.
Merci, Eva.
Merci, Pascal.
Voilà, Eva Rock, la belle 2021 que vous retrouverez dès lundi. Êtes-vous prêt pour l'été ? Concerto numéro 2 en sol mineur de Vivaldi, interprété par Julie et Camille Berthollet. Thank you. applaudissement pour Camille et Julie Berthollet. On va leur dire tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Et en plein hiver, le premier jour de l'an 2021, elles sont en direct dans le studio de Culture Média, les sœurs Berthollet, enfin presque. Bonjour Julie.
Bonjour, bonne année.
Bonne année à vous, merci d'être là.
Hein, avec grand plaisir, écoutez, il fait beau, le taxi était sympa, ma journée commence trop bien.
Ah bah oui. Non, c'est vrai, il faut se satisfaire de petites choses comme ça.
Tout à fait.
Si vous voulez tout savoir. Non, je raconte pas ma vie.
Oui, je veux savoir.
Et ben, il y a un VTC qui m'a planté. Il y a deux VTC qui m'ont planté ce matin. C'est passionnant. Hein. Bon, bref.
Ah mince. Bah, désolée, la prochaine fois, on échange.
D'accord. Bonjour Camille.
Bonjour. Bonne année.
Bonne année Camille Berthollet. Alors bon, on va dire la vérité. Hein. Vous deviez être là. En présentiel, ce terme horrible, en studio avec nous, et puis qu'est-ce que s'est-il passé?
Tout à fait. Non, mais la voiture n'a pas démarré ce matin, on était bien au froid. Du coup, j'ai bien loupé mon communiqué de voix. Pourtant, j'étais bien en avance, mais bon, c'est pas grave, on a trouvé une solution.
Ouais, encore quelqu'un qui te fait le coup de la panne, quoi.
Exactement.
Même en 2021.
Bon, Julie, est-ce qu'il faut croire Camille? Oui, elle dit la vérité.
Ah oui, 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 mais elle dit même beaucoup plus la vérité que moi en général. Donc
ah, c'est vrai?
Ah ouais, faut plus la croire, elle.
Vous faites bien de me le dire.
Oui, c'est vrai que moi, mentir, j'ai beaucoup de mal.
Non, elle est nulle pour mentir.
Ah bon?
C'est incroyable.
Bon, Camille, qu'avez-vous fait hier soir, sauf indiscrétion, avec ce réveillon très particulier?
Oh, bah, j'étais en comité très restreint, famille... tout tranquillement, et puis voilà, on se souhaitait la bonne année, mais c'était très tranquille, mais c'était très sympa. Mmh.
Et vous, Julie?
Eh ben moi, j'étais avec ma petite maman, je lui avais fait à manger, et puis on s'est cultivé en regardant le bêtisier à la télé, parce que la culture, ça fait du bien.
C'est vrai,
donc voilà.
Ah ouais, finir en beauté, quoi.
Bah ouais, tout à fait. Puis on a commencé une série sur Netflix. Évidemment, on la finira pas ensemble, mais...
Et laquelle?
Les chroniques de Bridgerton, je crois, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc on a fait grosse culture.
Est-ce que l'une comme l'autre, voilà, vous avez en gros une vingtaine d'années, je sais que c'est pas tout à fait vrai, enfin, c'est pas très précis, surtout, est-ce que ça vous a chiffonné de ne pas pouvoir fêter dignement le nouvel an? Est-ce que vous faites partie voilà, des vingtenaires qui sont frustrés par la situation actuelle, remplie d'empêchements, Camille?
Oui, c'est vrai que forcément, je pense que notre tranche d'âge, et même les plus âgés d'ailleurs, ou les tranches supérieures, mais je pense que oui, ça commence à être long. Et puis, bah, la nouvelle année, c'est un moment qu'on a envie de partager avec nos proches, avec nos amis. Et c'est surtout les amis qui me manquent, moi, les moments avec les amis. Donc oui, je vous cache pas que ça commence à manquer pas mal.
Bah oui, c'est difficile. Et vous?
Alors déjà, je me dis que maintenant, je vais appeler tous les gens plus âgés que moi les tranches supérieures, parce que je trouve ça stylé.
Et puis, en disant, j'étais sûre que tu rigolerais.
Bien, ça pourrait être pire. Je crois que mon pire réveillon, je l'ai déjà fait. Donc du coup, j'étais vaccinée.
C'est quoi? Racontez.
C'était, je crois, il y a... Ouh, en plus, Camille s'en souvient. Il y a 2 ou 3 ans, je me suis retrouvée dans une petite soirée où on devait être moins de 10. Et il y avait mon ex dedans, avec qui je n'avais plus parlé depuis la rupture par texto. Voilà, j'ai fini en pleurant.
Attendez, deux secondes.
Donc c'était super.
Il vous a jeté par texto?
Peut-être que c'était moi, c'est possible.
Vous avez fait ça? Sérieux?
On me faisait flipper. Et donc du coup, je l'ai retrouvé dans cette soirée et je crois que c'était la pire de ma vie. Et ouais, je l'ai fini à 1h du matin à pleurer par terre dans mon hall d'entrée. Donc du coup, je pense que ça pouvait être que mieux. Donc c'est l'avantage du pire.
Meilleur réveillon.
Voilà.
C'est beau.
Tout à fait.
Il en faut toujours un pire comme ça. On prend ça comme référence et tout va bien.
Exactement.
La vérité, l'une et l'autre, c'est que vous avez déjà beaucoup travaillé dans votre vie, hein, vertueuse du violon comme du violoncelle. Ce sont beaucoup d'heures d'apprentissage et de répétition. On va raconter un petit peu votre histoire. Chronologiquement, Julie, vous êtes l'aînée.
Absolument.
Quel âge avez-vous?
J'ai 23 ans.
23 ans, vous les avez déjà?
Oui, mais âge mental, c'est une chose différente.
Combien, combien âge mental?
5-6, quelque chose comme ça.
5-6?
Oui.
Ouais. Vous, Camille, c'est bientôt votre anniversaire, je crois.
Oui, lundi, j'ai 22 ans. C'est bizarre, mais je ne pourrais même pas être avec toute ma famille.
Ouais. C'est triste parfois, ces empêchements. Alors Julie, on lit que vous avez découvert le violon à 3 ans ?
Même avant, en fait, j'ai découvert le violon vers 1 an et demi.
Bah, quand comment c'est possible ?
Bah, maman m'a amené à un concert et j'ai pas pleuré, j'ai pas trop chouiné. Et en fait, je suis restée comme ça, bouche bée. Et à 2 ans, je crois, j'ai vu un concert au château d'Annecy où j'étais toute petite, j'étais assise devant, je m'en souviens très bien, au premier rang. Et c'était un concert d'orchestre, j'ai vu le premier violon, je crois jouer les 4 saisons de Vivaldi, et j'ai dit bah, je veux faire ça de ma vie. Et j'ai pas changé d'avis depuis ce jour-là, donc j'ai découvert assez tôt.
Ouais. Mais physiquement l'instrument ?
Bah ouais, j'ai vu l'instrument, je savais que ça allait être ça. Et ouais. Puis à 4 ans, j'ai pu commencer les cours de violon avec un tout mini violon et une prof qui m'a supportée pendant 4 ans.
Oui, réciproquement probablement. C'est incroyable. Vous Camille, c'était je crois d'abord le violoncelle ?
Oui, tout à fait. J'ai visé le violoncelle en premier. J'ai voulu d'abord faire du violon comme ma sœur et on m'a dit, tu sais, tu peux faire l'instrument que tu as envie de faire. J'ai dit, ok, alors je ferai du violoncelle puis du violon.
Et pourquoi ces instruments ? Parce que la batterie, c'est bien aussi, vous voyez ?
Oui, c'est sûr. Mais en fait, je pense qu'à cet âge-là, on ne se pose pas de questions. Et voilà, moi, j'ai flashé sur le violoncelle lors d'un concert. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, ce son de l'instrument, la chaleur, le fait qu'il soit proche du corps, je pense. Mais c'est ça qui est magique, parce que oui, on se rend pas compte de ce que ça représente complètement et non plus de ce qu'est une carrière de violoncelliste ou quoi, mais juste j'ai dit voilà, j'ai envie de faire ça comme j'avais envie de jouer avec mes poupées.
Ouais, ouais, c'était du même ordre probablement. Vous n'avez jamais saturé, Julie, des petits moments de rejet, vous savez, quand on a un apprentissage qui est quand même assez compliqué, est-ce qu'il y a eu des moments de rejet par rapport à l'instrument, par rapport au solfège, par rapport à tout ?
Alors, il y a eu des moments de trop-plein, certainement, mais pas par rapport à l'instrument en soi, parce qu'il n'y a jamais eu de problème avec la musique. Ça a plutôt été toujours le truc qui venait nous sauver et puis nous faire relativiser. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis dit, oh là là, ce milieu, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là, pas par intérêt et puis par amour de la musique ? Et de temps en temps, il y a un peu trop ou un peu trop de stress. Mais il y a toujours la magie qui est là. Et puis, une fois qu'on arrive sur scène et puis que ça commence et... En fait, tout est oublié et tout va bien. Donc, il y a toujours la magie de la musique.
Partie de l'histoire.
Ouais, ouais. Totalement.
Votre actualité, je la rappelle, une nouvelle édition augmentée de votre album Nos 4 saisons. On vient d'écouter l'été. Quelle est votre saison préférée dans la vie ? Quelle est votre saison préférée de Vivaldi, Julie ?
Alors, ma saison préférée dans la vie... Mais je change d'avis tout le temps, je suis vraiment une crêpe.
Bah aujourd'hui,
moi, je trouve qu'elle est très bien la saison qu'on a là, parce que j'ai un nouveau manteau et je l'aime beaucoup, donc c'est l'occasion de le mettre. Et puis, en musique, je dirais que c'est l'hiver. Clairement l'hiver, ouais.
Et vous, Camille ?
En musique, l'été, mais dans la vie, j'aime beaucoup l'hiver aussi, quand il y a de la neige. Cette année, on en a un peu, pas beaucoup, mais sinon, j'aime bien aussi.
Oui, parce que c'est trop drôle de voir les Parisiens galérer avec leur voiture dès qu'il y a 2 flocons, j'adore.
Oui, on aime beaucoup.
C'est très drôle, c'est très très drôle, elle arrive, il paraît. On va continuer à parler de cette œuvre composée par Antonio Vivaldi. Ce sera juste après une petite pause. Camille et Julie sont avec nous, Berthollet, tel est leur nom de famille, et puis Damien Cabrespine va vous tirer le portrait, vous allez voir. Ça va être somptueux, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nos 4 saisons par Camille et Julie Berthollet. L'album est disponible avec un bonus, un DVD inédit d'un concert du Théâtre des Champs-Élysées en 2018. On en reparlait tout à l'heure. Les 4 saisons, à l'origine, cette œuvre composée par Antonio Vivaldi vers 1723. Comprenez-vous, Camille, pourquoi c'est devenu un tube planétaire au XXe siècle ?
C'est une bonne question. Ouais, je pense que oui, c'est assez fou le fait que Vivaldi parle à tous. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que tout ce qu'il a créé, il y a des choses qu'il n'a pas créées lui-même qui étaient déjà créées, mais il y a plein de choses qu'il a créées et qu'il a écrites. Et en fait, c'est encore réutilisé aujourd'hui dans les chansons plus modernes, dans la pop, tout ça. Même l'harmonie, tout ça, c'est réutilisé différemment. Mais au final, tout ce qui est les bases, tout ce qui est fondamental, c'est réutilisé. Donc, au final, c'est incroyable. Vivaldi, c'est vrai que c'est une musique qui touche autant les petits que les grands. Et Et c'est une musique qu'on a beaucoup entendue, mais qu'on, même les titres qu'on n'aurait pas encore entendus, on a l'impression de déjà les connaître parce que c'est tellement merveilleusement bien écrit que ça roule tout seul, ça coule de source.
Ouais. Et vous, Julie, vous avez une autre explication? C'est le côté évident, enfin, peut-être facile d'accès, c'est pour ça?
Bah, en tout cas, Vivaldi a réussi quelque chose, c'est de composer quelque chose qui traverse les âges sans... sans vieillir, parce que ouais, si on analyse, on prend une partition de Vivaldi, on prend les accords, on peut carrément caler une chanson pop dessus sans problème. Donc il a vraiment trouvé des recettes qu'on utilise encore aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est que je remarque que les publicitaires se trouvent toujours comme les plus grands génies du monde de penser à mettre les quatre saisons dans toutes les pubs chaque année, comme si c'était une nouveauté. Et ça marche toujours, c'est une recette qui marche. Donc oui, l'été de Vivaldi, c'est aussi la pub du dernier Samsung, mais à la base, voilà, c'est Vivaldi, c'est un peu ce qu'on essaye de dire.
Et puis, il y a beaucoup de films, de cinéma aussi, évidemment, qui sont illustrés par ces quatre saisons de Vivaldi. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Deux sœurs chantent également, hein, on peut découvrir, enfin on l'a découvert il y a longtemps, mais on le découvre aussi sur cet album. Il y a quatre morceaux avec Joy Jonathan, Foé, Icar. Du coup, vous avez sauté sur l'occasion, Damien, un portrait des sœurs Berthollet en chanson.
Exactement, parce que je suis allé faire un tour, Camille et Julie, sur votre page YouTube, et au milieu des captations de concerts, des grands airs de Bach, de Schubert, de Brahms ou de Dvorak, j'ai découvert des reprises classiques de mélodies populaires, comme par exemple celle-ci. S'il suffisait d'aimer de Céline Dion, une de vos chanteuses préférées, Camille. Et ce qui m'a fasciné sur votre page, c'est cette volonté de démocratiser à tout prix la musique classique, quitte à s'aventurer dans des territoires inattendus. Vous reprenez du Patrick Bruel, avec vous les carcans intellectuels s'écroulent. Vous voulez toucher un public de votre âge. Ce public qui a pu se déhancher par exemple sur Tous les mêmes, le tube de Stromae. Sur votre page YouTube, toujours, j'ai découvert des reprises confinées, car vous jouez parfois aux blogueuses. On vous voit, Julie, vous adressant directement aux internautes, en leur parlant parfois de la pluie et du beau temps et de vos évolutions capillaires, très important. Dans ces vidéos, on découvre que vous parlez un anglais parfait. Il faut dire que vos tournées, débutées alors que vous aviez respectivement 10 et 11 ans, vous ont permis de faire déjà le tour du monde, un peu comme U2, tiens.
Ah, j'aime trop cette chanson.
Vous avez débuté la musique à l'âge de 3 ans toutes les deux, alors comme un clin d'œil à votre précocité et à vos désirs de scène et de show business, vous avez revisité le grand classique de Charles Aznavour. Vous êtes des jeunes filles de votre temps, presque comme les autres, à ceci près que vous jouez toutes les deux de 3 instruments à la perfection et que vous avez chanté, ah oui, vous savez chanter sur un air de Nino Ferrer, c'est classe. Bref, je conseille à nos auditeurs d'aller faire un tour sur votre page YouTube. Et pour terminer cette chronique, je vous propose qu'on écoute un dernier extrait. Le titre « Alléluia » de Jeff Buckley, repris par vos soins. Un peu de douceur. En ce 1er janvier, je crois que là, on est vraiment pas mal pour commencer cette nouvelle année.
Je vais l'écouter encore. C'est possible. Damien Caprespine, qui terminait donc sur le Alléluia de Jeff Buckley. Donc là, on s'incline, il n'y a plus rien à dire. Est-ce qu'il y a, voilà, il y a aussi ce fantasme d'être complètement chanteuse? Oui ou non, Julie?
D'être complètement artiste, plutôt.
Ah.
C'est de faire des choses différentes et de ne pas se mettre de barrières qui n'ont rien à voir avec nos envies finalement. Par exemple, ce titre-là, Alléluia, on l'a enregistré avec des petits violonistes qui nous envoyaient leurs vidéos. On a monté tout un projet pendant le confinement qui s'appelait Play with Camille and Julie et on écrivait des partitions, des arrangements. Les gens nous envoyaient leurs vidéos, on montait tout et on faisait une sorte de grand orchestre un peu virtuel. Et ça sort un peu du cadre de ce que font peut-être les musiciens classiques d'habitude. Donc oui, chanter aussi, ça en fait partie.
Talk with Camille et Julie, c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, en votre compagnie qui écoutez, je l'espère. Nouvelle pause, et puis quand on reviendra dans pas longtemps, Nicolas Carreau sera là tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Camille et Julie Berthollet sont dans Culture Média ce matin, il est 10h30 et j'imagine que tous les gens de votre âge dorment encore.
Oui, ça paraîtrait être une activité à fait saine et normale d'ailleurs, tout le reste de l'année aussi.
Exactement, chacun sa vie. D'ailleurs, je suis sûre que vous, Camille, s'il n'y avait pas eu cette invitation sur Europe 1 et puis cette voiture qui ne démarre pas, etc., vous seriez encore en train de dormir, non ?
Oh, c'est fort probable. Moi, dormir quand je peux, j'adore. Ce matin, je me suis levée.
Mais on ne va pas dire pour rien, parce que vous êtes là avec
nous
et c'est ça l'important.
Mais c'est bien, j'ai commencé l'année en me levant tôt, c'est une bonne idée.
On parlait chanson il y a un instant, je ne vous ai pas demandé à vous, Camille, quels sont vos chanteurs préférés dans la vie ?
Oh, j'en ai beaucoup, j'écoute de plein de styles différents.
Mm-hmm. On veut des noms.
Tu dirais quoi ?
Si on était honnête, je dirais que tu as quand même beaucoup écouté Céline Dion dans ta vie, ça m'a permis d'aller voir le concert avec toi donc au Zénith. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc du coup, je t'en veux un petit peu moins. Exactement.
Mmh. Et Camille, mais à l'heure actuelle, j'aime beaucoup ce qui se fait. J'aime beaucoup le dernier album de Vianney qui vient de sortir. Toute la chanson française, j'aime beaucoup.
Et les anciens ?
Les belles chansons à texte.
Ah, les anciens, ça, c'est ce qu'on écoutait toute notre enfance. On adore.
Comme qui ?
Piaf, Aznavour, Brel, Brassens, on a grandi avec tout ça dans la voiture, Barbara, Django, on est des fans, on n'a pas du tout des goûts très, très, très modernes à la base.
En même temps moderne, c'est relatif moderne.
Absolument.
Oui.
Allez, toute la semaine, Nicolas Carreau est venu nous parler littérature dans ce Culture Média des Fêtes. Merci pour ça, Nicolas. Et bonjour.
Bonjour.
Pardon, pour cette dernière regard sur la deuxième rentrée littéraire, celle de janvier, qui est encore très fournie. C'est la petite sœur de la rentrée de septembre.
Oui.
Alors, combien de romans, lesquels ? Il y a des poids lourds en général en janvier-février. Vous nous dites tout.
Exactement. Alors, 493 romans cette année. C'est un petit peu plus que l'année dernière. 12 de plus, puisqu'il y en a qui ont été décalés avec les histoires de confinement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les conditions sanitaires.
Non.
Et sur les 493, 153 romans étrangers, 63 premiers romans. Donc ça, c'est pour les chiffres.
Et pour les lettres, alors.
Pour les lettres, qu'est-ce qu'on a ? Il y a du lourd, effectivement, en janvier en général, parce que les écrivains installés aiment bien échapper au grand raout des prix d'automne, Goncourt, etc. Donc, ils sont plus tranquilles en janvier. Et donc, par exemple, Marine Diaye, Le Retour. Marine Diaye, prix Goncourt avec Trois femmes puissantes, vous vous souvenez ? Elle
très
revient
bien.
Avec La vengeance m'appartient, chez Gallimard. Histoire d'une avocate, Maître Suzanne, 42 ans. Un jour, un homme vient la voir. Il lui demande de défendre sa femme, Marilyn, qui a commis un crime atroce, mais vraiment atroce. Sauf que l'avocate a une drôle d'impression puisqu'elle croit reconnaître un jeune garçon qu'elle a rencontré quand elle était enfant. Elle croit reconnaître ce jeune garçon dans cet homme-là.
Diabolique.
Yasmina Reza est là aussi avec Serge chez Flammarion, quatrième roman, l'histoire de la famille Popper, avec des héros losers, mais du genre loser magnifique, et des sujets graves, gravissimes, les camps, mais traités avec distance, c'est pour le 6 janvier, mercredi.
Et puis on a vu passer Olivier Adam.
Absolument, chez le même éditeur. Bon alors évidemment, Olivier Adam, faut pas s'attendre à une comédie ou à une avalanche de joie de vivre. Mais il y a cette douceur chez lui, puis cette intelligence aussi. Ça s'appelle « Tout peut s'oublier », l'histoire de Nathan, qui découvre que son ex-femme est repartie dans son pays, le Japon, en emmenant leur fils avec elle. Et on suit ce père entre Bretagne et Japon, donc à la recherche de son fils. Et qui sait, de lui-même, forcément.
J'adore parce que j'entends Camille au téléphone qui commande tout. Vous êtes à fond, Camille, hein ?
J'écoute bien.
Non, c'est agréable. Nicolas, vous avez plus souriant quand même.
J'ai Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire qui publie L'Enfer, l'histoire d'un type qui arrive au ciel, il est mort, il ne sait pas trop où aller, il est un peu perdu dans les nuages, et puis il tombe sur une sorte de fonctionnaire du service des admissions qui lui montre une direction. Franchement, le héros a pas trop de quoi s'inquiéter, il a ses défauts, mais grosso modo, il a eu une vie plutôt sobre, prof de fac, bon. Il avance, bon, il pense qu'il va au paradis, hein. Il avance et il découvre un aéroport. Et il se rend compte qu'en fait, il est en enfer, qui est donc un terminal d'aéroport. C'est chouette, hein, c'est beau et tout, c'est aseptisé, il y a plein de magasins et tout ça. On peut en sortir, prendre l'avion, mais on échoue forcément dans un autre terminal pour l'éternité. Et puis, enfin, peut-être pas dans le roman, vous verrez. Et puis, en février, il y a Philippe Delerme qui revient. Moi, j'aime bien Philippe Delerme, avec du pur Delerme, d'ailleurs, des textes courts. Ça s'appelle La vie en relief.
Côté étranger, s'il vous plaît, Nicolas.
Alors, j'ai Stephen King, ouais, que j'adore aussi, en février également. 4 romans pour le prix d'un. Enfin, 4 grosses nouvelles, en fait, ou courts romans, comme vous voulez. Alors là, non plus, pas de surprise. Rien qu'au titre, on est chez King. Ça s'appelle Si ça saigne. 4 histoires, d'ailleurs pas forcément d'horreur, on le réduit souvent à ça, pas du tout. Je vous en donne une quand même, il y a une enquête de détective, une autre effectivement de communication avec l'au-delà, donc un peu horreur effectivement.
Début hier, découvert
ça.
Une histoire d'un écrivain en manque d'inspiration et l'histoire d'un homme raconté à l'envers, en partant de la fin.
Très tentant.
Ouais.
Ben voilà, on lira ça, enfin on choisira, on va pas tout lire. Hein.
Bah non, 493, ça fait trop.
Je vous signale qu'à la fin là, de Culture Média, là, tout à l'heure, je vais vous lire la première page du prochain roman de Yasmina Reza.
Ah bah chouette, ça tombe bien.
Serge chez Flammarion, exactement. Et donc 87 autres romans à paraître à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup Nicolas Caro, c'était un plaisir. Julie, Camille, est-ce que vous avez le temps de lire et quels ont été jusqu'alors vos petits chocs littéraire personnel, Camille?
Oui, alors je lis beaucoup, mais je lis pas mal, mais je lis énormément, donc j'ai l'impression de lire pas du tout à côté d'elle, et j'ai une maman qui est relectrice et qui lit beaucoup, donc dans la maison, les livres, ça tapisse les murs. Mais moi, je suis plus biographie, donc toutes les autobiographies, j'en ai reçu plein, et là j'en ai encore plein à lire, et c'est vraiment les bouquins que j'adore.
Mmh. Vous avez une en particulier à nous conseiller?
Nelson Mandela, c'est une de celles qui m'avait marquée.
Ah ouais. Et vous, Julie?
Alors, moi, je lis beaucoup. Alors, moins que ma maman, c'est toujours relatif dans la famille. On compare toujours à la personne qui lit le plus.
Bah, qui lit un livre par jour. Donc,
Ah
oui, elle lit un livre par jour. Donc, ça, du coup, c'est bien. Elle me fait toutes les critiques. Cette année, j'ai relu tout Rilke. J'ai reçu la Pléiade de Cioran. Donc, ça, j'étais super contente.
Vous lisez Cioran?
Ah, j'adore.
Pour vous mettre en forme,
préférés.
Sûrement. Ouais.
Ah non, mais ça change rien du tout à la dépression. Vous savez, c'est juste une petite manière de la magnifier. Donc j'aime beaucoup, et puis sinon les romans, la littérature japonaise, j'aime beaucoup beaucoup Shimazaki, beaucoup de choses, et je sais juste ce que je ne lirai pas, ce sera les journaux du confinement de chaque auteur qui s'est dit que ce serait très original.
Ah oui, bah,
mon journal du confinement,
on les attend encore, hein. Enfin on les attend pas encore. Non, est-ce que ça va arriver, l'effet du confinement sur la littérature? Pour l'instant, heureusement, à mon avis, on n'en a pas trop, mais enfin, on verra bien.
Je pensais ça, mais en même temps, je me disais que la littérature, c'est aussi l'époque, donc ça compte. Il en faut quand même un peu, mais il faut qu'il soit bon.
Exactement.
C'est toujours le problème, il faut que ce soit bon. Julie, aimez-vous Julien?
Oui, bien sûr.
Julien Doré. Nouvel extrait de l'album Aimé, ça vous dirait?
Ah, mais oui, mais bien sûr.
Me dites pas.
Allez,
non,
Julien,
parce que je suis mal,
je t'aime.
Sinon. Allez, voici nous. Ah, on m'avait prévenu que ça s'arrêtait brusquement. Nous, de Julien Doré. Julien Doré qui a sans doute passé le 31 dans les Cévennes avec ses deux chiens. Bah, d'ailleurs, j'ai vu une photo sur Instagram de dos et cul nu. C'est ça la vérité, allez voir. Hein, je fais un peu de pub.
Il a un beau dos?
De belles fesses, ouais.
Ah ouais, d'accord, je vais regarder alors.
Regardez, il est devant un très beau paysage des Cévennes. Je ne sais pas si c'est un lever, un coucher de soleil, bref.
On regardera pour les Cévennes, tout à fait.
Bah oui, comme vous dites. C'est drôle, Julie.
Non, du tout, mon humour,
moi
c'est pas
amélioré. Elle me fait beaucoup rire.
Ah, c'est vrai, Camille?
Ouais, toujours, elle me fait toujours rire.
Et réciproquement, j'espère.
Ah bah oui.
Oh, je ne sais pas.
Ah oui, mais c'est encore mieux quand elle me fait rire et que c'est pas intentionnel. Alors là, c'est le mieux.
Ah, je vois le genre.
Oui.
Alors, nos quatre saisons, nouvelle édition de l'album à succès, votre album, les sœurs Berthelet, Julie et Camille, Camille et Julie. Pourquoi il y a toujours écrit Camille et Julie? On peut pas dire Julie et Camille, c'est comme on veut, non?
Bah, on a dit qu'on faisait ordre alphabétique, comme ça, on se tapait pas dessus. Non, en fait, on s'est battu. Et la première qui a eu le nez cassé, bah voilà, perdue, et c'était moi.
Voilà, c'est ça. Julie a le nez cassé.
Voilà. Donc, voilà, du coup, on dit Camille et Julie maintenant, mais voilà. On peut aussi dire les sœurs, on peut dire
Camille,
on peut dire Julie et Camille. Ça passe, ça passe, ça passe, on accepte.
Vous avez l'air quand même fusionnelles toutes les deux, non?
Ouais.
Ah oui.
On peut dire, mais on a grandi ensemble, donc on a fait toutes nos études de musique ensemble, toutes les bêtises ensemble, la scène, les tournées, donc on a partagé énormément de choses, on partage en frigo aussi, et ça oui. Je tiens à dire que ça rapproche beaucoup, et puis je l'adore, c'est ma petite sœur, donc des fois on nous compare à des jumelles,
oui, sauf
mais on
que
est
non.
quand même très différentes.
Bah, d'abord vous êtes différentes. Ça s'entend, je trouve. Et en plus, non, de fait, il y a une aînée. Il y a une aînée, il y a une cadette.
Ah oui, il y a une vieille et une jeune.
Alors, on parlait de ce nouvel, de ce, la sortie de ce, cet album. Il y a un DVD inédit du concert donné au Théâtre des Champs-Élysées en 2018. Voilà, moi j'aurais bien volontiers, comme tout à l'heure, laissé tout l'album, mais bon, allez voir vous-même, allez écouter par vous-même, après tout. J'imagine que, de la même façon, on a reçu ici, toute cette semaine, beaucoup d'artistes extrêmement frustrés, que ce soit des comédiens, des humoristes, on va parler des humoristes dans un instant avec Louise Bernard, mais est-ce que pour vous aussi, l'absence de scène est une frustration totale en ce moment?
Alors déjà, être frustrée, je pense que c'est le propre d'un artiste.
Pourquoi ?
Non. En fait, là, je suis en train de taper sur toute ma profession et ils vont me taper en retour, donc je ne vais pas du tout dire ça. Oui, évidemment, la scène, elle nous manque de fou. Et là, il y a ce DVD qui sort. En plus, c'était vraiment pas fait exprès, mais du tout. Et ça tombe bien. Parce
ça
que
tombe pas si mal, oui.
Ouais, c'est la seule manière de voir un concert,
concert
un petit peu en vrai. Et c'est un moment super. Mais ouais, on n'attend qu'une chose, nous, c'est de remonter sur scène, que la tournée reprenne, que notre tourneur puisse enfin arrêter de pleurer. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi.
Et pendant le premier confinement, le Radical, en mars-avril, est-ce que vous jouiez pour vos voisins sur votre balcon?
On a des voisins très, très variés, disons. Il y en a qui sont trop gentils, qui nous laissent des petits mots, genre « Ah merci, c'était trop gentil de jouer, on est les voisins du quatrième, rejouez plus souvent. » Et puis, il y a les voisins qui descendent en hurlant et en tapant sur la sonnette dès qu'on fait la moindre petite note de piano à 16h
oh, c'est en pas semaine. Vrai.
Donc, il y a les deux teams dans l'immeuble. Voilà. Ouais.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, votre indispensable du jour, c'est le Montreux Comédie, autrefois appelé Festival du Rire de Montreux. Son édition 2020, on en parlait hier, ou avant-hier peut-être, je ne sais plus, a dû être annulée, Covid oblige, mais on peut se consoler en allant sur sa chaîne YouTube.
Mais oui, parce que c'est tout simplement le plus grand festival d'humour francophone au monde. Et puis cette chaîne YouTube, elle regorge de pépites. Hein. C'est une sorte de comédie club virtuel, donc depuis votre canapé. C'est vrai, vous regardez
ouais.
Bon, alors vous n'allez peut-être pas découvrir, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez picorer des petits sketch de moins de 10 minutes de dizaines et dizaines d'humoristes différents au style d'humour qui sont très variés. Tous les mercredis, une nouvelle vidéo, des extraits de sketchs filmés lors des précédentes éditions du festival. Alors il faut fouiller dans cette chaîne parce qu'elle existe depuis 11 ans. Il y a du lourd évidemment, les Baptiste Le Caplin, Fary, Anne Romanoff, Jérémy Ferrari, Alex Vizorek, etc. Et puis notamment l'indétrônable Blanche Gardin.
Oh.
Bon déjà, je les lisais pas moi, les tweets « Balance ton porc » parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Il y en avait qui étaient... Il y en avait des salés, quand même. Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Moi, N+1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du deuxième semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses deux mains sur mes seins, il me pince les têtes... Oh, on arrête de chauffer les gens, là. Il y a des gens à qui n'arrive rien, je le rappelle, quand même.
Blanche Gardin, extraordinaire. Mais j'imagine qu'on peut voir des humoristes moins connus.
Oui, c'est tout l'intérêt de cette chaîne, justement, l'accès à des sketchs d'humoristes plus confidentiels, hein, qui n'ont pas forcément des captations de leur spectacle disponibles sur les Netflix ou autres Amazon Prime Video. Pas de DVD non plus, mais du talent, ils en ont. À l'image de Paul Mirabel, c'est un jeune humoriste de 24 ans dont vous entendrez beaucoup, beaucoup parler dans les années à venir, je vous le promets. Son sketch dépasse les 13 millions de vues en quelques mois seulement. Hein. C'est le record absolu du Montreux Comédie. Désolée Blanche Gardin. Et ça figure même dans le classement 2020 des 10 vidéos YouTube les plus populaires en France. Hors musique, évidemment, puisque ça fait toujours des records extraordinaires. Mais 13 millions pour un jeune artiste qui rôde encore son spectacle. Hein. Il ne le joue pas vraiment. Il joue dans une salle de 25 spectateurs quand c'est ouvert. Et donc,
Là, on a envie d'attendre un extrait.
Mais voilà, mais c'est prévu. Mais avant, petit détail visuel qui a son importance. Paul est très grand et longiligne. Et justement, il se moque de son physique pendant tout son sketch.
Je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant. Après. Et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit « Il y a quand même une petite différence sur la photo. Après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. » Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit « Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas ?» J'ai dit « Monsieur, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. »
Paul Mirabel au style bien à lui, très identifié, hein, c'est un mélange de naïveté et de maladresse assez irrésistible. Mais il n'est pas la seule pépite, hein, mention spéciale à Jimo et son rythme tellement lent, mais même ses silences parviennent à faire rire le public. Et Douli, c'est cette humoriste femme à la voix de clochard, c'est elle qui le dit, pas clochard, hein, clochard, c'est elle qui le dit et ça lui permet d'imiter Jean Gabin. Il y a aussi des spectacles en intégralité, d'autres en anglais, une spéciale humoriste québécois et tout ça est à voir sur la chaîne YouTube du Montreux Comédie donc. Et le festival, lui, on l'espère, aura lieu en décembre 2021.
Ah bah oui, on espère fort. Louise Bernard, merci beaucoup. Camille, vous aviez les mêmes choix que Louise ?
Ah oui, oui, j'adore. J'adore aussi regarder les vidéos comme ça avec Julie en se mettant dans le canapé. Très bon choix.
Mais à vous écouter l'une et l'autre, je pense qu'il y aurait un petit nouveau terrain à défricher éventuellement. Hein. Du stand-up pour l'une avec l'autre, non ?
Ah mais ça c'est
Julie, elle fait carrément. Julie sur scène, elle fait rire les gens. On parle beaucoup avec le public sur scène. Mais Julie, elle a toujours le tact et le truc pour faire rire en toute circonstance.
Pas forcément le
tact ou le tac au tac.
Le mot, parce que sinon j'aurais pas quitté certaines personnes par texto. j'aime bien faire rire parce que je sais pas faire grand chose d'autre. Donc
non,
du coup,
c'est vrai.
Sur scène,
non, c'est vrai.
Mais j'aime
c'est
bien rebondir.
Pas... Non, c'est vrai. D'ailleurs, je m'inquiète un peu pour vous là. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de
c'est
vous
C'est ce que dit ma maman aussi. Hein.
Allez, nouvelle petite pause. Avant de nous retrouver. Hey, bonne année.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Violon et violoncelle au plus haut niveau pour Camille Berthollet, parce que Julie, moyen, franchement.
Bah, c'est ce que disent tous les profs, hein, on
plaisante.
Est bien d'accord. Hein.
Je plaisante.
En plus, je fais de l'alto, donc c'est bon, j'ai tout perdu.
Est-ce que l'une et l'autre, vous avez eu les mêmes professeurs de musique ou pas du tout ?
En partie.
Ouais,
pour le violon, Julie a commencé avant moi, mais après les profs russes, tout ça, on a eu les mêmes, on est parti à l'étranger pour les mêmes. Et Julie a fait plus de piano, donc elle a eu des profs différents de ceux que j'ai eu parce que j'en ai fait moins. Et violoncelle, j'étais la seule à en faire. Et puis Julie de l'alto. Donc on a eu des profs en commun en violon. Et puis le reste, c'était.
Mais tous les profs de théorie, tout ça, après, on a eu essentiellement.
Oui, pour la
même.
Licence et le master, on a eu les mêmes profs.
Donc
aussi,
on pouvait faire nos devoirs ensemble les 10 minutes avant les cours dans la voiture. C'était assez pratique.
C'était bien pratique. Oui.
vous les voyez encore ? Et est-ce que, à un moment donné, vous avez eu envie de leur rendre hommage ? Parce qu'un bon prof, quelle que soit la discipline, il me semble que c'est fondamental, très important. Donc, par moment, on a envie, on a besoin de le leur dire. Ça vous est arrivé ?
Alors, certains profs, je sais que si je les vois, je change de trottoir. Mais d'autres, on a été très 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 chanceuses. On a eu des profs qui nous ont appris une super technique, d'autres qui nous ont appris à nous exprimer vraiment sur scène. Et évidemment, il y a des profs avec qui on garde contact. Et puis, c'est un lien fort qui se crée quand on a des cours, par exemple, tous les jours, et puis qu'on va puiser au fond de nous-mêmes et qu'on sait qu'on va avoir chaque jour des critiques, mais qu'elles seront constructives. C'est des personnes sur qui on sait qu'on peut compter et qu'on n'a pas envie de décevoir. C'est même ceux qui nous feraient le plus stresser dans un public, parce qu'on peut avoir 10 000 personnes en face, ça va, mais si on sait qu'il y a 3 profs au premier rang, oui, et que c'est tout, alors là, mais on flippe, mais c'est la fin. Quoi.
C'est vrai, ouais. Ouais. Parce que vous avez envie de...
De leur... d'être toujours au meilleur du meilleur. Ouais.
Ouais. Julie, si vous changez de trottoir, c'est peut-être pour la raison suivante. On vous a récemment entendu témoigner, notamment sur une vidéo de Loopsider, sur le harcèlement sexuel dans le monde de la musique classique, et je trouve ça important d'en reparler deux minutes, parce qu'il faut que la parole circule, c'est très important. Que s'est-il passé après ce témoignage, parce que vous évoquiez un chef d'orchestre?
Oui, par exemple, ce qui nous semblait important quand la question a été posée, moi ce que j'ai essayé de dire, c'est que la musique n'est pas un milieu épargné du tout, et qu'on semble parfois penser que certains milieux le sont, alors que pas du tout. Oui, on a découvert que dans le cinéma ça existait, mais dans la musique aussi, et je pense que partout en fait. Il faut pas penser que certains corps de métier sont hors de cette problématique du harcèlement ou des problèmes de pouvoir ou tout ce qui va avec et qui devrait changer en 2021. Et personnellement, je pense que les artistes peuvent aussi parler et puis s'engager pour...
Oui, voilà. Alors il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, hélas, dans tel ou tel milieu, mais bien peut-être sûr. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que la parole sort ou pas. C'est peut-être là, parce qu'il y a eu ce phénomène MeToo qui est partout, mais on a l'impression qu'il y a des milieux où la parole a plus de mal à émerger, non ? C'est le cas de la musique classique, croyez-vous ?
La musique classique, c'est très complexe parce que c'est un milieu qui a une histoire super riche et niveau technique, c'est incroyable. Il y a des traditions merveilleuses et c'est ça qui nous a fait avancer. Et il y a aussi le revers de la médaille qui fait que c'est un milieu qui peut être parfois très conservateur où la parole est très très peu libérée et que la hiérarchie est un petit peu mise sur un piédestal, et je pense que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et ça manque aussi beaucoup de diversité à mes yeux. La musique classique, c'est un milieu très très masculin. Les femmes sont dans les orchestres depuis quelques années, quelques dizaines d'années au maximum selon les endroits. Les femmes chefs d'orchestre, il y en a je crois 4% en France.
Oh, c'est pas possible ça.
Enfin, faut changer tout ça. Ça manque. On est en 2021, quoi. Il est temps de faire bouger les choses, et dans le milieu du classique aussi.
Vous faites bien de le rappeler qu'on est en 2021, parce que c'est pas si vieux non plus. Hein.
Voilà, mais là je suis à fond.
Non, ouais, vous avez raison. Camille Berthollet, justement en 2021, vous la voyez comment celle-là ? Je sais bien qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en ce moment, mais idéalement...
Idéalement, moi j'espère pouvoir reprendre les concerts très 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 bientôt. Ça, ouais. Parce que ça va faire un an qu'on a fait 3 concerts, donc c'est tellement peu, on n'a jamais fait ça de notre vie. Et oui, c'est ça qui nous rend heureux. Je pense que le public aussi en a besoin. On a vu les 3 concerts qu'on a pu faire en 2020, on a vu comme ils étaient heureux et comme ça nous a fait du bien à tous. Donc oui, je la vois belle, je me dis que tout va bien aller et que voilà, qu'on pourra reprendre les choses gentiment et que chacun puisse reprendre son travail et puis être actif, parce que on a besoin de pouvoir refaire des choses, bouger, voyager, vivre,
bien sûr,
tout simplement.
Vivre, tout simplement. Julie, très rapidement, s'il vous plaît, 2021.
J'aimerais bien qu'on puisse rêver un petit peu, et puis que les politiques comprennent que le peuple a besoin du pain et des jeux. C'est très vieux, oui, en effet, mais ils ont un petit peu oublié les jeux. Donc voilà, on a le pain, merci, c'est cool, et maintenant on aimerait bien les jeux.
Enfin, on a le
oui,
pain.
Et puis que la culture existe.
On a le pain dans le meilleur des cas, hélas.
Ouais, alors ça c'est sûr, un peu sec et un petit peu avec un goût amer. Hein.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. En tout cas, Julie est venue. Camille, non, mais
Camille, c'est... Par la pensée.
C'était pas... Oui, exactement par téléphone, c'était pas de votre faute. Merci d'avoir essayé. En tout cas, les Sœurs Berthollet, Nos Quatre Saisons, l'album version plus plus. Un 1er janvier, en tout cas, on a apprécié votre présence. Et puis, je vous souhaite une bien belle année, alors.
Mais à vous aussi.
À vous aussi. Merci, et à tout le monde.
Merci, à très bientôt. Voici première page pour terminer. Nous terminons précisément cette série avec un roman de toute beauté. Je vous le dis comme je le pense, parce que je l'ai lu, le 6 janvier paraîtra chez Flammarion, le nouveau roman de Yasmina Reza qui s'appelle Serge. En voici la première page. La piscine de Bègue date des années 20 ou 30. Je n'étais pas allée dans une piscine depuis le lycée. Obligation de bonnet de bain, paraît-il. J'avais emporté la calotte du spa de Wigor, toujours conservée. Avant de rentrer dans les douches, un type me dit « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans la piscine comme ça. Pourquoi ?»« Votre maillot est en tissu ?»« Bah ouais. Et il doit être en lycra. »« Bah, j'ai été dans l'eau partout avec ce maillot, personne ne m'a jamais rien dit. Ici, il doit être en lycra. Comment je fais ?» Il me dit d'aller voir le type des cabines. J'explique mon problème au type des cabines. Il me semble un peu anormal comme ceux qu'on voit parfois faire la circulation dans les écoles. Il dit « Je vais voir ce que j'ai. » Il me rapporte un maillot noir et... Ah ah ! Serge de Yasmina Reza apparaît chez Flammarion le 6 janvier. Et celui-là, ne le laissez pas passer. Culture Média, de fait, c'est fini. Merci à vous. Merci énormément d'avoir été là. J'ai d'autres merci à envoyer à toute l'équipe qui a rendu possible ces deux heures d'antenne quotidienne. Merci à Antoine Janton et Christophe Carrière. Merci Thomas Hill. Merci à Joy Raffin. Merci à Louise Bernard. Merci à Damien Caprespine, Eva Rock, Nicolas Caro, Fred Goetti, Angèle Châtelier. Merci aux chefs d'antenne pour les liaisons qui étaient réussies. Et enfin, un grand merci à Valentine Gelin qui réalisait cette émission avec talent. Dès lundi, 9h, vous retrouvez Philippe Vandel et son équipe. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Belle année à vous, 2021. On va la tenter. Allez, bye bye.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.